Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonsoir, bienvenue dans After Sunday, l'émission qui débrief le MotoGP. Ce soir, comme d'habitude, j'ai à mes côtés Alexis et Michel. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Voilà. De l'autre côté de la table, vous avez été très nombreux lors du débrief du Qatar numéro 2 à lui poser énormément de questions. On s'est dit, c'est impossible, il faut qu'on le fasse revenir. Vous avez donc Thomas Morcellino qui est de retour avec nous. Thomas, si vous n'étiez pas là pour le débrief du Qatar, c'est Monsieur Statistique du côté du MotoGP. Ça va Thomas ?
Ça va très bien.
Bon. Merci. Donc évidemment, ce soir, on va analyser, décortiquer, débriefer ce très beau Grand Prix de Portimao, le Grand Prix du Portugal qui a vu évidemment la victoire de Fabio Quartararo. Pardon. On aura évidemment dans le fil de l'émission eh bien, l'image de ce Grand Prix. On abordera ensuite les 5 points marquants qui ont été mis en exergue par Michel Turcot. On aura également une exclusivité, ouais, il faut le dire comme ça, l'interview de Claude Michy, l'organisateur du Grand Prix de France, qui a bien voulu répondre aux questions de Michel. Alexis nous présentera sa rubrique. Et enfin, bien sûr, on abordera le Grand Prix suivant avec notre traditionnel jeu concours. Allez, on commence tout de suite. After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP, c'est tout de suite après le clin d'œil à notre partenaire. Alors Michel, on passe à ce Grand Prix de Portimao. Et l'image du jour, je pense que tout le monde autour de la table est unanime. L'image de ce Grand Prix, c'est bien évidemment le retour de Marc Marquez.
Effectivement, et c'était l'événement du week-end. C'était le moment que tout le monde attendait. Voilà, Marquez n'avait plus couru depuis 265 jours. Il n'avait pas passé une ligne d'arrivée depuis 518 jours, depuis le Grand Prix de Valence 2019. On se demandait s'il allait un jour être capable de remonter sur Sanda, de reprendre le départ d'une course. Ben voilà, il a levé les doutes, il s'est rassuré. Beaucoup d'émotions à l'arrivée de la course, hein, on l'a vu en pleurs, on l'a vu acclamer son retour au box par toute son équipe. Et il a fait un week-end à la hauteur de sa légende, on va dire, à la hauteur de Marc Marquez. Troisième de la FP1 à 0,2 secondes de Vinales, dans des conditions un peu particulières, puisqu'il n'avait plus la nuit, donc la piste était encore un petit peu séchante. Donc bon, la plupart des pilotes n'avaient pas pris... n'ont pas pris de risque, lui voilà, il voulait se rassurer, il est sorti.
Il voulait jauger tout de suite en fait.
Tout de suite, sixième de la FP2, le lendemain matin c'est un peu plus compliqué, il est onzième de la FP3, donc il doit passer par la Q1 où il réalise le meilleur temps, et puis donc en Q2, il est sixième sur la grille. Voilà, super séance d'essai. On lui avait dit la deuxième journée sera plus difficile que la première, parce que, enfin les médecins, on lui dit, c'est les médecins qui lui avaient expliqué un petit peu ce qui allait se passer, donc... La douleur s'est accentuée au fil des tours. Voilà, mais en tout cas, il fait une super course. Hein. Il termine 7e à 13 secondes du vainqueur. Il termine premier pilote Honda. Il termine devant son frère qui est à 4 secondes derrière lui. Mmh. C'est incroyable.
Après, c'est pas des bonnes nouvelles pour Paul Espargaro, tout ça.
Bah non, Paul en plus, lui, oui. Il s'est mis à plat ventre.
Non, il a eu une...
Ah oui, pardon, il s'est mis à plat ventre aux essais, oui, ouais. Excuse-moi. Ouais. Il est tombé
dans la course. Voilà. Et puis en plus, Marc, il s'est vraiment pas facilité la tâche, parce que je crois que c'est Fabio qui le disait, le circuit de Portimao, c'est sans doute le plus physique du calendrier.
Ouais, puis il avait pas couru. Alors, on a dit qu'il avait roulé dessus, mais il a jamais fait de course l'année dernière pour le Grand Prix, il n'était pas là.
Non.
C'était pas le plus simple, effectivement, comme
c'était
le dit Alexis.
Pas le plus simple, mais bon, il n'avait pas trop le choix. Hein. Il aurait aimé venir au Qatar, mais les médecins lui ont déconseillé de reprendre à ce moment-là. On sait qu'avant le Qatar, il avait fait des essais à Barcelone, à Portimao, donc avec la Honda entre guillemets de série. Voilà. Après examen, la fracture n'était pas encore assez solide pour au goût des médecins pour lui laisser prendre le risque de rouler au Qatar. Donc voilà, dès qu'on lui a donné le feu vert.
Il est arrivé,
voilà, et il a fait ce qu'il a fait. Maintenant, il sait que il n'est pas sorti d'affaire pour autant. Enfin, il n'est pas sorti d'affaire. Il va falloir encore du temps pour être à 100%. On lui a dit qu'il ne pouvait pas s'entraîner d'ici Jerez. Pas de question de faire de la moto, pas question d'aller faire du dirt track.
Voilà. Repos total.
Il va falloir du repos. Donc, il va falloir qu'il gère son envie de ben voilà, là il s'est rassuré, il peut courir, il a envie d'être compétitif, donc il va falloir qu'il gère son envie de revenir trop vite, qu'il gère son tempérament. Quoi. C'est...
On a une question de Marc de Nancy qui demande est-ce qu'on est surpris par le retour de Marquez?
Surpris à quel niveau? Alors, par la performance?
Ouais, je pense par ses performances. En tout cas, moi, j'ai été surpris de retrouver instantanément son style de pilotage spectaculaire. La confiance est revenue très vite.
Oui, oui. Après, il a expliqué sur la première journée, il était quand même, on l'a vu un peu en cata sur. Alors, on peut dire que c'est son style, donc ouais. En cata. Mais là, il était en cata sans trop chercher à être en cata. Plus étant emmené par la moto. Ouais, il a démarré la première journée avec les réglages de bradle. On sait que bon, même si le développement des motos était gelé, bon, la moto elle a quand même évolué depuis un an, quoi. Donc. Lui, il a démarré avec des réglages qui n'étaient pas les siens. On sait qu'il a un pilotage très particulier.
Ouais, ça a été assez reproché quand il n'a pas été là de dire que la moto n'est faite que pour lui. Hein,
donc il a commencé à travailler un petit peu sur les réglages que le samedi. Mm-hmm. Donc voilà, il n'avait pas une moto qui était adaptée à ce qu'il avait envie de faire. Et puis son bras, il est pas. Voilà, il a un bras. Ça. Il dit qu'en sur des salles de sur des séances de muscu, il a un écart de 10 kilos de puissance sur les deux bras.
Donc, ouais, c'est beaucoup.
Toi qui
fais
toi qui es sportif, ouais. Alexis, hein.
Alors, ouais,
bon, 10 kilos. Bon, Thomas, entre deux Thomas, bras, c'est des, beaucoup, ouais. Des retours comme ça dans l'histoire du MotoGP. Alors évidemment, nous, on a un retour. C'est Mick Doohan qui était passé à deux doigts de l'amputation et qui derrière revient et gagne 5 titres mondiaux.
Mais ouais, après, on verra pas. Vas-y.
Non, mais après, c'est des blessures assez. La blessure de Doohan était nettement plus grave que
exactement.
Celle de Marquez. Et il est revenu beaucoup plus vite.
Ouais. Donc la blessure de Marquez, elle s'est aggravée par son retour précipité sur le Jerez numéro 2, on est bien d'accord.
Ouais. Il a eu une infection
Mais des retours comme ça en compétition
Après, voilà, bon, hormis Doohan, mais bon, c'est vrai que Doohan, ça reste quand même l'exemple même. Mais bon, après, il y a eu Lorenzo qui s'était fait opérer il n'y a pas si longtemps que ça en 2015.
À Seine.
En 2013, pardon.
Oui, il se casse la clavicule.
Il se casse la clavicule,
vendredi,
exactement.
Il s'est opéré, il revient,
il fait
ça, c'est quand même incroyable.
C'est ça, il y a eu. Après, on peut prendre même des maladies. Entre guillemets, parce qu'il y a Stoner qui a souffert d'une intolérance au lactose, qui a été absent des Grands Prix pendant X mois et qui est revenu en gagnant ensuite. Dani Pedrosa qui s'était absenté pendant quelques Grands Prix pour un problème de heart pump et qui était revenu aussi après quelques Grands Prix qui avait réussi à regagner derrière. Donc il y a eu quelques exemples, mais c'est sûr que ça n'a rien de comparable avec un Mick Doohan ou un
Kevin Schwantz qui s'est quand même massacré à
poignet, bassin. Exactement, donc il y en a énormément. Quoi.
Je rebondis sur ce que tu dis, le arm pump, là, on a quand même encore deux pilotes qui se sont fait opérer juste avant ce Grand Prix, c'est Iker Lecuona et Jack Miller. Et puis même Fabio à l'arrivée, Fabio s'est fait opérer déjà aussi par le passé de ça. Alors là, c'est pas ça qui l'a gêné, mais il disait, il souffrait du bras, il avait des tendinites au bras.
On l'a vu sur les images du parc fermé où il se plaignait comme ça. Il a tout de suite ouvert son cuir et il enlevait ses bandes de.
À quel
de
point c'est physique de piloter une MotoGP aujourd'hui pour tous les pilotes, et donc l'exploit de Marquez est encore plus.
Bon, Michel, on passe au point marquant maintenant. Le premier, évidemment, victoire de Fabio.
Bah oui, victoire éclatante. Et d'autant plus importante qu'il le disait après sa victoire au Qatar, le Portimao, ça sera un test. L'an dernier, il termine 14e, si je ne me trompe pas, à la rue complet.
Oui, avec Morbidelli qui avait,
avait sauvé les meubles avec une moto de l'année précédente. Mais bon, là, il y avait quand même des gros doutes chez Yamaha. Est-ce que le nouvel aimant allait être dans le coup à Portimao? Ben voilà, ça a été le cas. La moto était là. Vinales, bon, il est passé au travers de sa course, mais en qualif, il était là. Donc voilà, une moto. En fait, Fabio le dit, il a retrouvé la moto qu'il avait à Jerez en juillet dernier. C'est-à-dire la moto qui était celle avant qu'on lui réduise la puissance, qu'on lui enlève des settings d'électronique à cause des problèmes de fiabilité. Il y avait eu quelques casse-moteurs. Donc voilà. Là, il retrouve la moto qu'il avait eue en début d'année dernière, avec laquelle il gagne ses deux courses en Espagne. Il retrouve un nouveau châssis aussi avec lequel il a un très bon feeling de l'avant, donc voilà, grosse confiance dans le train avant. Et puis lui-même, il l'avoue, il a bossé cet hiver avec son psy pour arrêter de se mettre en panique quand ça va pas, arrêter de voir les choses de manière négative quand c'est pas comment. Voilà. Là, il fait encore un début de course, il est sixième, il prend son temps, il double, alors que ça fait des années qu'on nous répète que les Yamaha, pour gagner, il faut partir devant et il ne faut pas avoir à doubler. Là, au Qatar, comme à Portimao, il est capable, il est capable de doubler. Et puis après, il imprime un rythme incroyable, il est en train neuf tout long. Et Rins derrière essaie de suivre, se met par terre. après c'est au tour de, aussi de Joanne de tomber. Donc là il fait le trou, puis après
et en plus c'était bon, moins flagrant qu'au Qatar, mais enfin la ligne droite de Portimao, oui, oui, on l'a vu plus d'une fois, les Ducati elles étaient bien servies. Et puis moi ce que je retiens aussi, c'est que je pense qu'il a peut-être mis le doute aussi dans ses adversaires, parce que pendant de nombreuses séances c'est le seul à avoir roulé en pneu dur. Quasiment.
Alors, c'est le seul à avoir essayé le pneu dur en se disant que ça va peut-être me servir. Et comme le dimanche il faisait plus chaud, il a pu se dire je vais partir avec le pneu dur sans avoir de doute, puisque ce pneu, alors même s'il était peut-être un peu mieux avec le médium, il s'est dit de toute façon ce pneu fonctionne aussi, donc je joue la sécurité.
Oui. Et d'ailleurs, il a bien insisté à l'arrivée là-dessus en disant que contrairement aux autres pilotes Yamaha qui sont partis avec ce pneu dur sans l'avoir essayé, lui il avait essayé avant et avait été plus malin qu'eux.
Ouais.
Et ça, il s'est fait
plaisir. Parce que je pense que en FP4, je crois que c'est encore l'un des seuls à rouler en pneu dur, et il fait le meilleur temps, si je dis pas de
bêtises. Il fait une FP4 incroyable, parce qu'il est le seul à descendre, à faire 8 chronos sous les 1:40, et alors que personne d'autre ne passe sous les 1:40.
Ouais, non, mais et puis après, forcément, dans la tête des autres, on cogite. Ah, tiens, il roule en dur, nous on l'a pas essayé, ça marche, qu'est-ce qu'on fait, quoi. J'imagine que là, il avait préparé sa course correctement.
Je pense que Vinales, qui n'a pas un gros moral, est déjà un peu miné.
Alors justement, on nous demande, un internaute, si Fabio, est-ce qu'il va refaire la même saison que l'année dernière, sous-entendu un début de saison en fanfare et s'écrouler, ou est-ce qu'il a appris de ses erreurs, est-ce que c'est vraiment l'année du titre? C'est un peu tôt pour le dire.
Ce qui est sûr, c'est que, on l'a dit, la moto est beaucoup mieux que l'an dernier.
Il est beaucoup mieux que l'an dernier lui aussi.
Lui a progressé, il a gagné en maturité, il a appris de ce qui s'est passé l'an dernier. Voilà, là il démarre bien. Le prochain Grand Prix c'est à Jerez, on peut imaginer qu'il va être dans le coup vu ce qu'il a fait l'an dernier. Voilà, après on va arriver au Mans, on va arriver sur des circuits, il va peut-être falloir gérer aussi la pluie. Voilà, des circuits où on n'a pas roulé l'an dernier, Mugello par exemple, donc il va y avoir des situations nouvelles, et encore une fois
on va essayer de pas trop se précipiter. C'est très très bien ce qu'il fait, parce que on l'a quand même pas dit, mais il est en tête du championnat du monde.
Tout à fait.
Donc un Français en tête du championnat du monde en MotoGP, c'était déjà l'histoire retient que c'était la semaine dernière. Enfin il y a 15 jours
effectivement. Donc il retrouvera au classement, mais oui.
Il est en tête avec 15 points d'avance.
Voilà. Donc plutôt
avant pas mal. C'est pas mal. Voilà.
On passe deuxième.
Allez, une petite dernière question de Lisa de Lyon. C'est vrai qu'il nous dit aussi que Fabio a travaillé avec un psy cet été. Ouais. Voilà, c'est pour mieux gérer ses émotions, ça aussi, ça peut faire la différence cette année.
Ouais, on en parlait. Effectivement, il a appris à contrôler ses émotions, et surtout, il a insisté là-dessus, sur avoir une pensée positive. Quoi. Donc, arrêter de dès qu'il y a un truc qui le contrarie, de voir les choses en noir. Quoi. C'est hyper important. D'accepter qu'il puisse y avoir des difficultés et faire en sorte de les surmonter en étant optimiste, c'est quand même la clé du succès. Quoi.
Donc le deuxième fait marquant, Michel, Joan Zarco.
Bah oui, Joan qui était en tête du championnat en arrivant à Portimao et qui n'est plus que
quatrième
à 21 points. Voilà. Alors il a été là, Joan, il a fait la course dans le paquet de tête. Il est deuxième à 6 tours de la fin. Mais un peu pendu et un petit problème sur sa boîte de vitesse. Il rentre une vitesse de trop. Comme il est un peu limite avec son pneu avant, il croise des skis.
C'est dommage parce qu'il était. Il
c'est
était
dommage.
Bien.
Alors il.
Ouais, il pouvait espérer le podium. C'était peut-être pas la deuxième place, mais la dernière, je pense que ça. La troisième place, je pense que ça.
Il a dit j'ai perdu 10 points, donc voilà. Donc 10 points, c'est un top 5. Quoi. C'est vrai qu'il avait un peu, il a peut-être été un peu trop gourmand, mais on sent qu'il a encore, il n'est pas encore dans l'optique de gérer un championnat pour un titre. Ouais. Il est dans le besoin de performer pour se donner de la confiance et pour mieux maîtriser cette moto. Quoi. Il n'est pas encore passé le step de la gestion du titre.
Hein. Je pense que c'est la bonne attitude.
Le point positif, c'est que autant au Qatar, on pouvait s'attendre en général à des belles performances des Ducati, puisqu'on sait que c'est quand même un tracé qui leur convient. Autant là, à Portimao, c'était intéressant de voir comment ça allait se passer. Et il a été quand même le plus régulier des pilotes Ducati. Peut-être pas le plus performant dans l'absolu, puisque Bagnaia avait signé un tour extraordinaire, mais au moins il est constant, quoi. C'est
il
ça
est
qui
constant,
est,
il est constant.
Intéressant.
Ouais, Bagnaia est quand même là aussi.
Ouais.
Est-ce qu'il aurait pu avoir la pole du coup
Bon, ben justement, Bagnaia, voilà, Johan Zarco, Bagnaia, on arrive au Ducati.
Donc Bagnaia, oui, il aurait dû, enfin, il aurait dû, s'il n'avait pas été pénalisé pour, à cause des drapeaux jaunes, qui ont été sortis pendant son tour chrono, il faisait une pendule terrible. Il aurait dû partir de la première ligne, là, il part, il est 11e au premier tour et il remonte deuxième, quoi. Il fait une super course sur un circuit où il n'est pas facile de doubler, où la Ducati n'était pas non plus donnée, et où l'an dernier, il avait eu de gros problèmes lui-même.
Ouais, il s'était fait percuter au premier tour, dans les premiers tours, il avait dû abandonner, et donc, parce qu'il avait une douleur à l'épaule.
Voilà, et puis c'est un circuit compliqué. D'ailleurs, on voit que Jorge Martin, qui est arrivé tout feu tout flamme après sa super course au Qatar, s'est dit je vais arriver là-bas.
J'ai compris.
Ouais, je vais leur montrer. Et puis, dès le début, il était paumé. Et puis, il a fini par se.
Alexis, il reviendra dans sa chronique un petit peu plus tard. Et puis, Miller, qui était deuxième l'an dernier sur ce circuit. C'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe, à ton avis, Michel?
Là, le syndrome.
Il s'est fait opérer.
Là, en l'occurrence, c'était pas. C'est qu'il fait une erreur. En fait, pour en avoir discuté un peu avec David Tardoni pendant le week-end, il se met une pression terrible, quoi. Et du coup, il roule en dedans et sous pression. Là, il galère encore dans le top 5. Il galère avec Aleix Espargaró. Espargaró le double, il veut redoubler, et puis il fait une erreur en bagarre avec lui. Et voilà. Après, c'est un type honnête. Hein, il a dit, j'ai fait une connerie. Je suis tombé, donc il s'en veut. Mais bon, ça va faire que après le Qatar moyen, et là pas terrible. La pression, elle va pas diminuer, quoi.
Non. Ouais, parce que Miller, là, si on regarde le classement, il est 12e. 12e, hein, et il n'a pas 14 points.
Hein. Son coéquipier Bagnaia, qui est censé être le pilote numéro 2 de l'équipe, fait beaucoup mieux. Donc ça aussi, ça fait pas les affaires.
12e au classement, hein, Bagnaia, dimanche soir. Hein. Donc forcément. Costume trop grand, tu penses, Michel, ou pas? L'avenir nous le dira. On va peut-être lui laisser aussi le temps, on disait.
Après, c'est sûr, c'est des pilotes qui arrivent, qui arrivent dans des positions avec beaucoup de pression, sans avoir beaucoup d'expérience, quoi. Hein. C'est le cas de Fabio, qui s'en sort super bien, et Miller un peu moins bien, quoi.
On passe à Suzuki.
Ouais, encore un bon week-end.
Un bon week-end. Mine de rien, c'est vrai que, comme l'an dernier, Suzuki, c'est pas plus éclatant que ça, mais finalement, quand tu regardes, ils sont là, quoi.
C'est discret. Rins a amélioré la qualif, donc c'est un motif d'espoir.
Thomas, il a une statistique.
Première ligne, c'était déjà arrivé l'année dernière, mais c'est vrai que c'est rare. Sur les Suzuki, c'est très rare. Et en plus, l'année dernière, la première ligne qu'il fait, je crois, c'était sous la pluie, c'était sur une condition mouillée. Donc effectivement, c'est assez rare pour être souligné qu'effectivement, faire une première ligne, c'est pour
mieux. Malheureusement, il essaie de suivre le rythme de Fabio et
il tombe.
Voilà, et puis Mir lui remonte. Alors, à souligner que Mir, ce week-end, n'avait pas avec lui son chef mécanicien, Frankie Cartelli, qui était positif au Covid, donc qui a dû rester chez lui en Andorre. Donc ça a un peu perturbé son travail. Mais bon, il est là, hein, il monte sur son premier podium de la saison. On peut compter, c'est un pilote qui va être régulier, qui va être
On sait qu'ils vont être là et il faudra forcément compter avec eux.
Surtout qu'à Portimao l'année dernière, ça avait été très compliqué pour les Suzuki. Et là, ce week-end, ils étaient dans le coup. Donc oui, c'est une moto qui est toujours aussi performante et homogène, je pense, pour toute la saison.
Et puis à Jerez l'année dernière, Rins s'était blessé en plus de ça. Donc on peut voir, avant qu'il se blesse, il était assez rapide. Donc je pense qu'à Jerez, ça pourra faire aussi de belles choses pour Suzuki.
Est-ce que le gel justement des évolutions par rapport à l'année passée fait que la Suzuki pourrait tirer plus facilement son épingle du jeu, à ton avis, Michel?
Après, ce qui est curieux, c'est que on a des Ducati là qui s'en sortent mieux à Portimao, des Yamaha aussi visiblement qui ont progressé. La Suzuki, elle est là, et par contre KTM.
J'allais te lancer. On y arrive.
Avec Oliveira.
Avait explosé tout le monde,
atomisé.
On va dire, Fabio a beaucoup dit j'avais un super rythme. Alors c'est vrai qu'il avait un super rythme, mais il n'améliore que de 1,7 seconde
Global de la course.
Globalement, les conditions avaient l'air un peu similaires. J'étais à Portimao l'an dernier, je n'y étais pas ce week-end, mais ça m'a semblé des conditions de piste étaient similaires, donc des temps comparables. Donc ça a roulé un peu plus vite, mais pas énormément non plus. Donc les KTM qui en plus ont profité, elles, du, du fait que les autres ont eu un développement gelé puisque les concessions de KTM s'arrêtaient cette année. Donc, ils ont pu travailler sur leur moteur cet hiver.
Après, Brad Binder fait quand même top 5. Oui, et finalement, l'année dernière, si tu regardes, c'est vraiment Oliveira qui fait le boulot pour KTM, qui atomise tout le monde. Et là, il passe un peu au travers de son week-end. Mmh. Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment contre-performance de la KTM?
Enfin, il passe pas au travers. Il rate son départ et il tombe en course. Ouais. Il était là, mais bon, pas aussi dominant.
Même en qualification, il était en pole l'année dernière.
Par rapport à ce qu'on a vu l'an dernier sur l'ensemble de la saison des KTM, on était plutôt à espérer quelque chose de positif. Bon, au Qatar, peut-être pas forcément.
On a beaucoup dit que le Qatar n'était pas forcément le circuit qu'on aimait à la KTM.
Ensuite, la KTM, vu la correction qu'avait mis Oliveira l'an dernier au reste du plateau, on pouvait s'attendre à au moins à ce qu'on retrouve peut-être 2-3 KTM dans le top 6.
Et après, on a Petrucci qui a toujours autant de. Enfin, qui a vraiment du mal à s'adapter à la moto.
Qui souffrait d'un problème à l'épaule.
Oui, qui était toujours convalescent.
Il est toujours convalescent. Il doit faire la tête notre ami Hervé Ponchard.
Le Quena qui n'est pas roulé l'an dernier, donc est-ce qu'il était positif à ce moment-là aussi, donc c'est vrai que c'est pas
bon à revoir. Ces oranges moins pressées qu'on l'imaginait. Dernier point, Michel, on est obligé là d'en parler, c'est Valentino Rossi. Ça devient
une statistique, Thomas,
compliqué, non?
Bah écoute, si sauf erreur, il a marqué que 4 points depuis le début de la saison, c'est bien ça. Et ça. Donc, c'est son plus mauvais début de saison depuis qu'il est en catégorie 1, donc sur les 3 premières courses. Voilà, donc c'est sûr.
Ouais, puis ce qui est curieux,
il a la même moto que Fabio, faut le préciser.
En plus, on a un peu l'impression qu'il se vole un peu la face quand on l'écoute sur ses débriefs, sur ses points de presse. Voilà, il y avait du mieux en course, on va trouver des solutions. Bon, on a un peu.
C'est la méthode Coué?
Ouais, après, c'est vrai que c'est pas terrible, quoi.
Faut attendre le retour à la tournée européenne.
Je pense que Mugello Barcelone, s'il prend la même raclée, je pense qu'il va nous annoncer que fin d'année.
Ouais.
Même Gérèse, parce qu'il faisait podium l'année dernière.
Après, c'est toujours, je dirais, un peu triste, entre guillemets. On espère que c'est passager, bien évidemment. Hein. On n'est pas en train d'enterrer Valentino Rossi. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Mais c'est vrai que quand on a été comme ça, une icône telle qu'il l'est encore, même aujourd'hui, c'est quand même difficile à vivre.
Le problème, c'est qu'il sort. Il aurait pu sortir il aurait pu conclure sa carrière sur une.
En passant le relais à Fabio et dire
j'arrête. Quelque chose de grand, et là il va passer un peu, c'est un peu comme Federer au tennis, quoi. C'est à un moment donné, on veut pas arrêter, et puis il s'arrête un peu dans l'anonymat. Quand il va arrêter, on ne percevra pas qu'il n'est plus là.
C'est vrai que c'est un peu dommage, au niveau télé, là où on le voit de moins en moins. Systématiquement, pendant les courses, il y a un focus dessus qu'il est incontournable.
Et puis surtout, il n'y a plus d'attente.
On se rend compte qu'il n'est plus indispensable. Enfin, pour le show, quoi.
Clairement.
C'est vrai que pendant des années, on s'est dit.
Qu'est-ce qui se passera quand il partira?
Carmelo Espeleta qui se disait mon Dieu, ça va être un drame.
Ma cassette.
Tout le monde va éteindre la télé.
Et puis sans compter qu'avec le Covid, on n'a plus non plus les gradins remplis de casquettes jaunes fluo. Donc en fait, la présence de Rossi,
il est devenu un pilote parmi les autres.
C'est ça.
Bon, on jette un dernier coup d'œil sur le classement avant de passer à notre invité via vidéo. Donc Claude Michi, le classement, donc vous l'avez sous les yeux. Donc Fabio Quartararo est donc le leader avec 15 points d'avance sur Francesco Bagnaia. Vignales finalement est toujours troisième, il est là. Joan Zarco a glissé donc au quatrième rang. Mir, Espargaro, on y reviendra. Il faudra qu'on fasse un focus sur l'Aprilia quand même parce qu'il mérite Alex Espargaro. Et puis ensuite, Rins, Binder, Bastianini et Jorge Martin. Malheureusement pour Jorge Martin, tu y reviendras Alexis. Il va certainement glisser un petit peu dans la hiérarchie sur les prochaines courses. Allez, Michel, on disait, tu as eu l'opportunité d'interviewer Claude Michi, l'organisateur du Grand Prix de France. C'est une exclusivité pour After Sunday. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde la capsule que tu as enregistrée cet après-midi avec lui. Et ensuite, on revient en plateau pour en débriefer. Allez, on regarde tout de suite Claude Michi.
Bonjour Claude Michi.
Bonjour Monsieur Turcot.
Bon, tout le monde se pose une question importante. Hein. Y aura-t-il un Grand Prix de France?
Ce qu'il y a bien dans les questions, c'est qu'il y a des réponses en général. Donc la réponse, c'est qu'aujourd'hui, le Grand Prix de France est maintenu le 16 mai. J'étais à Portimao samedi là, pour tout caler avec Dorma. On a fait comité interministériel de crise la semaine dernière, donc avec l'appui du préfet de la Sarthe. Et aujourd'hui, le Grand Prix est maintenu le 16 mai.
Alors maintenant, la question sera de savoir dans quelles conditions. On imagine qu'on est à un mois de l'événement, c'est encore un peu tôt pour savoir, mais est-ce que tu as toujours l'espoir d'avoir un peu de public?
Alors, au comité interministériel de crise, donc on a eu un OK pour le huis clos déjà, c'est déjà bien de pouvoir organiser. Le deuxième point, c'est que en réalité, le 30 avril, on devrait avoir une réponse sur une possibilité de jauge, parce qu'on a fait une proposition de pouvoir accueillir du public avec un test PCR de moins de 96 heures sur une plateforme qu'on a remis en place avec BioGo, un laboratoire donc médical, qui permet de récupérer les coordonnées, le contact de la personne qui a le PCR et qui recevrait sur son téléphone un QR code qui permettrait d'accéder sur le circuit avec son billet. Et on a fait de différentes zones pour qu'on ait des espaces entre 2 et 3 000 personnes tout autour du circuit. Mais ça ne peut se valider que vers le 30 avril, 1er ou 2 mai. Et donc, après, on est prêt à mettre en place la mise en vente de billetterie en étiquette pour le dimanche uniquement, je pense. Donc, on est dans cette solution-là, on ne désespère pas.
Bon, surtout qu'il risque d'y avoir de la demande, étant donné l'excellent début de saison de nos deux Français. Là. On imagine que tu savoures toi aussi les performances de Fabio et Johan.
Ben, c'est magique pour la moto de voir les performances des deux garçons. Là. Et en plus, c'est surtout, je pense, une très belle image pour la moto, pour le sport moto, parce que la lumière est arrivée sur le sport moto, avec en plus une intensité importante, dans les médias hors captifs. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose. Le Canal fait un très bon travail, des audiences assez fabuleuses. Donc, tout est pour le mieux. En plus, on a deux garçons bien différents, entre Fabio, le jeune Jung, à la mode, performant, sympa, qui... auxquels peuvent s'identifier la jeunesse. Hein, et en plus, il n'est pas là par hasard. Hein, c'est que tout le monde travaille. Et quand on travaille et qu'on a du talent, ben on arrive à ce qu'il fait. Et même avec un peu, certainement, une vie bien liée au sport, c'est-à-dire peut-être avec des sacrifices. Et puis la reconstruction, fois champion du monde, de l'homme circonstruit et est au meilleur niveau.
Après, ça fait quand même depuis que Joël est arrivé en MotoGP, on est un peu habitué à des débuts de saison tonitruants. Enfin, ça a été le cas de Joël chez Tech 3. Après, quand Fabio est arrivé aussi, tout de suite, ça a matché. Par contre, les deuxièmes parties de championnat sont généralement un peu plus délicates pour tous les deux. Est-ce que tu penses que cette année, ils ont les moyens de se battre aux avant-postes jusqu'au bout?
Moi, je pense que... Concernant Fabio, on voit qu'il a vraiment franchi une étape. On a changé la Portimao. Je pense qu'il a vraiment franchi une étape mentalement, sur la maîtrise, sur le côté incisif. Hein, ça fait deux courses qu'il fait où il revient toujours aux avant-postes avec un départ où il était à un moment, il était, je crois, 9e au Qatar. Il était 5 ou 6e hier. Donc, à partir de ce moment-là, il a été top. Hein, donc, bon. Après, Johan, bon, ben, c'est la course. Hein. Apparemment, il y a un petit souci, comme il a expliqué avec sa boîte de vitesse. Et, bon, peu importe, il était là. Donc, moi, je suis un garçon, j'ai une vision optimiste des choses. Donc, je pense qu'ils peuvent aller au bout. Hein.
Une dernière question, Claude. Toi qui a été investi, enfin qui reste investi dans la formation des pilotes français. On pense à ton équipe Grand Prix de France. On a deux Français au top en MotoGP, ce qu'on n'avait jamais connu. En revanche, derrière, c'est un peu le désert. On a le petit Lorenzo Felon là, qui débute en Moto3, mais bon, c'est un peu difficile. Hein, il manque d'expérience, on va lui laisser le temps. Mais derrière, voilà, on a deux Français en Rookies Cup qui n'ont pas terminé les courses ce week-end. Et puis, on ne voit pas vraiment venir la relève. Là, ça t'inquiète? Comment tu vois un petit peu ça?
Non, je pense que l'inquiétude n'a jamais servi à quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il y a un travail qui est fait là, par Sébastien Poirier, qui vient d'arriver comme président de la fédération. Donc, qui a été faire le tour un peu de tous les gens qui essayent de former des pilotes. Et je pense qu'il y a une vraie politique de la fédération qui est en train de se mettre en place. Donc, il va prendre un petit peu de temps, c'est évident. Mais quand je dis un peu de temps pour que des pilotes arrivent à éclore, mais je pense que d'ici 2-3 ans, la politique qui va être mise en place un peu dès cette année et plus particulièrement l'année prochaine, vont permettre de voir arriver des jeunes dans les années à venir. Je pense que Fabio a 21 ans, il va servir aussi de tracteur et d'exemple et il va faire rêver les jeunes.
Bon, puis on peut imaginer que aussi bien que Fabio que Johan vont susciter un peu des vocations. Là.
Oui, c'est exactement ça. Non, mais ça, tu sais, c'est toujours comme ça. Je pense que quand il y a des jeunes sportifs qui sont au niveau mondial, on s'aperçoit leader, on s'aperçoit que dans le même moment, dans la nation qu'il représente, il y a eu, que ce soit en tennis ou ailleurs, ça a créé des vocations.
Bon, écoute, merci beaucoup Claude, et puis on se voit dans un
plaisir.
Mois au Mans.
Merci.
Bonne journée.
Avec plaisir.
Voilà donc l'interview de Claude Michel. Il y avait un peu de vent chez toi, non Michel, pour cette interview. Bon, le point positif, c'est qu'on a bien compris que Claude, il n'avait pas vraiment lâché l'affaire sur le côté public. Hein.
Non, il reste optimiste. Il espère, c'est dans un mois le Grand Prix de France, donc on peut espérer que la situation sanitaire s'améliore. Et que, en tout cas, il y a déjà le feu vert du préfet pour sa course, ça c'est déjà le plus important. Et maintenant, voilà, est-ce qu'il y aura du public? Est-ce qu'en prenant des mesures, des tests à l'entrée des tribunes, c'est le plan, en tout cas, il travaille, on peut faire confiance à Claude pour...
Ouais, puis l'an dernier, il avait montré que c'était possible, parce qu'il avait fait effectivement venir les gens que le dimanche.
Le dimanche,
oui. Avec en plus des accès directement identifiés pour leur tribune, etc. Donc je pense que déjà, il a l'expérience et il peut travailler en cohérence avec la préfecture par rapport à ça. Je pense que, en tout cas, on le souhaite. Évidemment pour Claude, évidemment pour vous les supporters, d'autant plus que on a quand même deux Français qui pourraient faire battre un record d'affluence, mon cher Thomas, dans les statistiques.
Puis on peut aussi le souhaiter pour les pilotes. Hein.
Oui, bien sûr.
J'imagine que c'est un peu, c'est un peu triste de ne pas pouvoir partager tout ça.
Bien sûr que célébrer une victoire et la prise des commandes du championnat du monde sans personne dans les tribunes, ça doit faire un peu bizarre. Bon, on parlait du Grand Prix de France, mais qu'en est-il? Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent actuellement sur l'Australie, notamment parce que le Superbike, qui traditionnellement ouvre la saison, mais généralement c'est au mois de février, on avait déjà repoussé la date du championnat du monde Superbike en Australie. Apparemment, il y a des rumeurs qui diraient que ça semble de plus en plus mal engagé, mais ce n'est pas confirmé. Est-ce que c'est aussi une inquiétude à avoir pour le Grand Prix?
Même si c'est encore loin, le mois d'octobre, on peut effectivement craindre que la situation ne soit pas suffisante. Enfin, la situation sanitaire reste suffisamment critique à cette période-là, sachant que les Australiens sont hyper protecteurs. Ouais.
Après, ils ont l'avantage, eux, de se refaire recentrer sur eux-mêmes.
Oui, non, mais bon, c'est des pays où ils prennent des mesures drastiques. C'est-à-dire, on l'a vu pour l'Open d'Australie, il y a deux cas dans les tribunes, on arrête tout. Quoi. Et, par contre, dès que c'est réglé, hop, tout le monde revient. Quoi. Mm-hmm. Donc c'est vrai que c'est une politique qui est...
Après, très différentes des nôtres. On a aussi vu que le championnat du monde Superbike n'est pas traité de la même manière que le MotoGP. On a eu des courses, on a des courses en MotoGP qui ont eu lieu beaucoup plus tôt. Le Superbike n'a pas commencé en fait encore cette année. Beaucoup de courses en Espagne ont été annulées, repoussées, à Seine également.
Ce qui est quand même surprenant puisque c'est de toute façon la Dorna qui est à la tête des deux championnats. Quoi.
Oui, mais je pense que les intérêts économiques du MotoGP n'ont pas grand-chose à voir avec ceux du Superbike.
Nous sommes bien d'accord. Bon, allez. On passe à la chronique d'Alexis maintenant. Alexis. Qu'est-ce que tu nous as préparé?
On va parler
du Rennes, voilà. On l'a charrié suffisamment, Alexis. Il était en Finlande pendant 15 jours. Il est allé voir Aki Ayo et le nouveau circuit. Allez, non mais vas-y.
Aki Ayo qui a beaucoup de succès. C'est tant mieux pour lui. Non, on va parler effectivement un petit peu des autres catégories aussi qui ont lieu ce week-end à Portimao. Le Moto2 avec Raúl Fernández, le phénomène d'Aki Ayo, qui avait remporté sa dernière course en Moto3 l'année dernière à Portimao et qui là gagne en Moto2 dès sa troisième course. Donc super performance de Raúl Fernández, un pilote à suivre. Il gagne devant Aaron Canet. Aaron Canet, c'est début de saison compliqué au Qatar, mais là c'était beaucoup mieux à Portimao sur la Bosco Scuro. La Bosco Scuro, c'est ex Speed Up, pour ceux qui se demandent d'où ça sort.
Parce que Bosco Scuro, ça me fait penser à un pilote, ça, non?
Bah, c'est lui qui est dans le team Speed Up depuis le départ.
C'est lui qui fabrique.
C'est ça, c'était pour différencier le nom, c'était pour différencier le team qui s'appelait Speed Up du châssis qui s'appelait Speed Up. Et du coup, comme maintenant ils revendent le châssis à d'autres équipes, c'était pour le différencier.
Et puis Rémi Gardner qui vient arracher le podium à Joe Roberts dans le dernier enchaînement, bien vu puisqu'il prend la tête du championnat du monde des mains de Sam Loves. Sam Loves qui avait fait le doublé au Qatar, hein, et là il a fait quelques mètres.
On n'aurait pas dû en parler de Sam Loves.
Avant de s'envoler. Voilà, violent highside au premier virage pour l'anglais.
Rémi Gardner. Je te coupe, Alexis, mais Thomas va nous dire, c'est un Australien en tête
de championnat. Je suis encore en train de rechercher parce qu'en fait, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais c'est vrai que c'est pas le dernier Australien à avoir mené en catégorie intermédiaire. C'est pas celui auquel on pense. Ce n'est pas Cazé-Sonner. Non, c'est pas Cazé-Sonner. C'est jamais arrivé. Il a jamais mené en fait.
Non plus.
Et du coup, faut revenir dans les années 70.
N'hésitez pas à nous donner votre réponse.
Non, je trouve Greg Hansford.
Je le connais même pas.
Continue. Continue, Alexis.
Et du coup, il faut remonter si loin. Donc, c'est pas Cazé-Sonner, en tout cas, ce que j'en sais. Donc, maintenant, je suis encore en train de rechercher pour confirmer, en tout cas, ce pilote-là. Parce que trouver les classements d'époque après chaque course, c'est pas évident. Ouais. Mais voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez rare, du coup, pour Rémi Gardner.
Moto 3, Alexis, maintenant.
Moto 3, encore une fois, Aki Ayo. Notre ami Aki Ayo. Avec Pedro Acosta, on le présente plus. Hein.
Oui, après son exploit du Qatar.
Pedro Acosta qui gagne la deuxième course au Qatar et qui regagne ce week-end face à Denis Foggia. Trois courses, trois podiums. Thomas, je crois que c'est toi qui nous avais sorti cette statistique. Il faut remonter à Daijiro Kato pour trouver un rookie. Qui est sur le podium de ses trois premières courses en Grand Prix.
Alors après, c'est comme tu veux, la différence entre rookie, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, c'est la différence entre rookie. C'est vrai que là, Kato était wildcard à l'époque.
Voilà, c'est sur trois années de suite, en fait, au Japon.
Il a fait trois wildcards au Japon, donc sur un circuit qu'il connaissait bien. Et donc
là, c'est encore plus fort.
Pour revenir, si vraiment on veut comparer, c'est plutôt Nobi Ueda en 125 en 91 qui avait fait la même chose, entre guillemets, trois podiums de suite. Par contre, 4 d'affilée, d'après ce que j'en sais, c'est pas arrivé. Donc, si jamais il fait podium à Jerez, il rentrerait encore un peu plus dans l'histoire.
À voir à Jerez, suspense.
Nouveau système de signalisation. Je vous avais parlé
au Qatar des capteurs de pression quand on sort de la piste. Là, une nouvelle innovation technique, c'est des panneaux LED pour signaler les drapeaux, en fait, tout simplement. Donc, la couleur du drapeau. Il y a déjà ce système au circuit Paul Ricard, par exemple. Et ça sera obligatoire sur tous les circuits à partir de 2022. Donc, ils ont mis ça en place en test à Portimao. Bon, ça n'a pas empêché Francesco Bagnaia de se faire supprimer son tour record à cause d'un drapeau jaune.
Alors, c'était un peu. Et les capteurs aussi, je crois que ça a été un peu.
Ça n'a pas souri à Maverick Vinales. Ouais. On a vu la photo. C'est-à-dire qu'avec l'ancien système vidéo, Maverick Vinales aurait été en pôle, en fait. Mm-hmm. Et là, le capteur s'est allumé. Voilà. Mm-hmm. Il a supprimé son tour. Mm-hmm. Un petit mot sur les blessés. On a parlé de Jorge Martin, donc qui a été forfait. Il a violemment chuté en FP3, direction l'hôpital, fracture de la main, du pouce, je crois, fracture de la cheville, et puis aussi une grosse commotion cérébrale. Donc là, Jorge Martin, il va être probablement opéré dans la semaine. Il est encore un petit peu en train de récupérer de son trauma crânien avant d'être opéré. Il y a très peu de chances, forcément, qu'on voit à Jerez. Et puis un autre pilote aussi qui a eu un gros crash ce week-end, c'est Takaaki Nakagami, FP1 je crois, bout de la ligne droite à près de 300 km/h. Il n'a pas pu participer aux qualifications, il est parti dernier sur la grille, touché à la clavicule. Alors c'est pas cassé, mais c'était très douloureux. Et puis courageusement il termine 10e, Takaaki Nakagami, en serrant les dents. Donc, bravo aux Japonais. Et puis un mot de la Rookies Cup C'était la première manche ce week-end à Portimao, double manche. Alors, la Rookies Cup, on sait, hein, le premier lauréat de cette coupe, c'est un certain Johan Zarco. Et le dernier, le tenant du titre, je vous donne en mille, Pedro Acosta. Donc, ça vaut le coup de s'intéresser à cette catégorie. Donc, peut-être un nom à retenir.
Amis pilotes, si vous commencez.
Ouais, il y en a plein, hein, il y en a plein. Mir, Martin.
Ouais, voilà, ouais, la liste est très longue. Donc, peut-être que dans le futur.
On a deux Français quand même engagés.
On a deux Français, Gabin, Planck.
Et
Bartholomé Perrin.
Ils n'ont pas terminé.
Voilà. Et c'est le Colombien David Alonso qui fait le doublé. Ouais. Donc peut-être un nom à retenir pour les futures années au Grand Prix.
Surtout qu'en plus, on peut imaginer, comme maintenant le règlement a changé, que si tu gagnes la Red Bull ou Rookies Cup, tu peux éventuellement.
Voilà, avant
faire
les 16 ans,
avant de faire une wildcard, comme ce qu'avait fait Chan Hong-Chu en 2018. Et qui, du coup, avait gagné.
C'est un peu moins bien maintenant, c'est de son côté.
Bon. Et un petit mot sur Lorenzo Felon, peut-être.
Lorenzo Felon, course encore difficile hein, ouais. En Moto 3. Alors, c'est vrai que forcément, quand on voit les performances d'autres rookies qui sont tout de suite aux avant-postes, on va lui laisser du temps.
Ouais, et apparemment, il manque pas mal de confiance dans le travail de la moto et c'est vrai qu'il est un peu bloqué. Là.
Bon, on va peut-être voir à Jerez une évolution, puisque Jerez, il aura forcément un petit peu des repères plus présent qu'à Portimao ou même qu'au Qatar. Donc, on espère que dès Jerez, on aura une petite réaction.
Puis traditionnellement, je crois que Jerez sourit bien au pilote SIG 58 parce que je crois que Tatsuki Suzuki a remporté une de ses victoires là-bas, Nicolo Antonelli aussi, à l'époque, en tout cas quand il roulait chez SIG 58. Et je crois que l'une des premières victoires de Marco Simoncelli à l'époque, c'était à Jerez. Donc,
vous comprenez pourquoi on a fait revenir Thomas, hein, vous l'avez compris. Voilà. Bon, bah en tout cas, merci Alexis. Alors, on va te redonner la parole parce que dans quelques instants, bien, ça sera les questions à l'équipe d'After Sunday.
Oui, on va juste prendre des questions. On nous parle beaucoup de Johan Zarco. On peut peut-être revenir un petit peu plus en détail sur le problème qu'il a eu de boîte de vitesse. En fait, c'est ça qui a provoqué sa chute à Johan.
Donc, c'est pas, en fait, pour resituer, c'est pas une erreur de Johan qui a.
Non, en fait,
il y a un concours de circonstances malheureuses.
Il rentre deux rapports à ce moment-là, pensant passer de la quatrième à deuxième. Et en fait, la moto avait rétrogradé d'elle-même en troisième au moment où il rentre ses deux rapports. Du coup, il en rentre un de trou, il se retrouve en première. Et là, comme son pneu avant est fatigué, la petite pression supplémentaire sur l'avant.
Ouais, on le voit d'ailleurs sur les images, hein, quand il rentre, on voit la moto qui louvoie un tout petit peu. Et de fait, au moment où il est sur l'angle, il n'est plus tout à fait sur la trajectoire et c'est ce qui provoque sa chute.
C'est un problème qui est identifié chez Ducati, c'est déjà arrivé.
D'accord. Bon. Autre question.
Et autre question sur Johan. Justement, est-ce que cette chute, tu penses que ça peut lui un petit peu casser sa dynamique et lui miner le moral?
C'est pas le genre à avoir le moral miné facilement. Non, je pense pas. Je pense pas que ça.
Bon, c'est important.
Ça mettre un coup d'arrêt à sa progression. Voilà. On peut douter quand on est tombé sans savoir pourquoi. Là, il y a une explication technique. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas dans le coup à Jerez.
Ouais, puis en plus, comme tu le disais tout à l'heure, quand on a évoqué les points marquants du Grand Prix, Michel, lui, il ne s'est pas caché derrière sa chute en disant « Ah, je suis sûr que je terminais deuxième ». Il a dit « J'ai perdu 10 points ». Donc, pour lui, il savait qu'il jouait un top 5. Voilà. Donc,
il savait qu'il était un peu… Il était un peu mieux que ce qu'il espérait parce qu'il était un peu… Il était un peu pendu, on va dire. Hein. Il a admis lui-même. Il a besoin de mieux maîtriser, de mieux sentir. On sait que Johan, c'est un pilote qui il a appris à piloter comme ça. Quoi. Il a besoin d'être en confiance pour aller de plus en plus vite. Il est sur cette dynamique-là. Quoi.
Non. On arrive encore à Jerez où Ducati a fait podium l'année dernière. Et puis.
Puis lui,
il a fait aussi des belles courses là-bas.
Avec la Yamaha.
Eh bien, justement, Thomas, tu me tends la perche pour la transition parce qu'il n'y avait plus de questions, Alexis.
On va enchaîner.
Bah, justement, ça tombe bien parce que la prochaine rubrique, c'est justement le jeu concours et les pronostics, messieurs. On vous attend.
Je me suis encore fait avoir, j'ai pas réfléchi.
De toute façon, tout le monde aura oublié. Tu veux dire n'importe quoi.
Alors, le prochain Grand Prix.
J'avais pronostiqué Fabio vainqueur du deuxième Grand Prix.
Voilà. Plus sérieusement, le prochain Grand Prix, on l'a évoqué, c'est Jerez. Donc, Fabio, on l'attend évidemment par rapport aux courses qu'il a réalisées l'an passé, ce doublé historique. Johan, on l'attend aussi parce qu'il a toujours bien roulé. Qui d'autre? Parce que les Yamaha avaient très très bien marché l'an dernier.
Tu cites Fabio, mais c'est vrai que le duo l'année dernière, c'était Fabio Vignales. Ouais. Ils ont fini tous les deux premier,
Rossi,
deuxième.
Rossi fait un podium.
Et Rossi fait un podium, il fait un triplé. C'était l'un des premiers triplés Yamaha depuis quelques années.
Et c'était Dovizioso, hein, c'est ça?
Et Dovizioso sur la première course. Ouais. Donc, du coup, parce que Rossi avait cassé son moteur sur la première course. Et... Ouais.
Tout comme
donc, Binder avait fait, s'était mis par terre, mais il avait fait des super essais avec la KTM.
Puis même il avait fait une.
Les Suisses sont plutôt bien.
Morbidelli aussi avait cassé.
Oui, la deuxième course. Bagnaia aussi avait cassé alors qu'il remontait pas mal. Donc il y a pas mal d'incohérences.
Donc faites vos jeux avec tout ça.
Bon, Thomas, allez, je note, vas-y.
Non, bah écoute, les.
Si tu réponds, tu reviens.
Bon, ok. Non, bah écoute, je vois bien Fabio. Enfin, je veux dire, là, ça me semble évident. Et puis après, encore une fois, je pense qu'il y aura encore une deuxième Yamaha sur le podium. Donc Vignales, j'ai du mal à voir Rossi ou Morbidelli. Ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué. Mais bon, après, peut-être, je pense à Marc Marquez. Un podium, je pense que ça peut être envisageable.
Alexis?
Fabio, Bagnaia, Vignales.
C'est pas moi qui réfléchis. Hein.
Michel.
Allez, Fabio, ouais, je vais dire Fabio, Mir et Bagnaia.
D'accord, bon, très bien. Alors, vous concernant les internautes et vous qui nous regardez ce soir, bien sachez que vous avez intérêt à nous donner vos pronostics. Alors, on vous rappelle qu'il faut donner l'auteur de la pole position et évidemment le podium de la course parce que bien, suite à ce Grand Prix, il y aura un lot très très sympa. Vous aurez un casque réplica à gagner, un casque réplica évidemment offert par notre partenaire. Donc, remuez-vous les méninges, réfléchissez, travaillez et rendez-vous pour le prochain After Sunday après le Grand Prix de Jerez. On sera là le lundi soir, même heure, même endroit, 19h. On vous attend. Merci de nous avoir suivis. Merci Thomas. Merci Alexis. Merci Michel. Bonne semaine. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Et on se retrouve juste après le Grand Prix de Jerez, c'est-à-dire le 3 mai. Voilà.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.